Ok, donc bienvenue pour cette correction donc, de l'oral de probabilité, oral 2 de proba. Donc un exercice pas facile et je vais commencer par sa correction. Alors, allons-y. Donc on lance deux dés équilibrés à 6 faces, l'un est rouge, l'autre est noir, donc ils sont discernables. On s'intéresse à la somme des nombres qui apparaît sur les faces du dessus. Alors le dé rouge porte sur les faces les numéros 1, 1, 2, 3, 4, 4 et le dé noir porte sur les faces les numéros 2, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Combien a-t-il du dessus ? Sont-elles équilibrées probables ? Et puis obtient-on le plus souvent une somme supérieure ou égale à 7, ou bien une somme inférieure ou égale à 7. Alors, pour résoudre cet exercice, je vais faire deux modélisations complètement différentes. Bon, la première, celle que j'aurais fait naturellement, c'est de dire, donc, parce qu'on s'intéresse à la somme à la fin, d'accord ? Mais la somme, c'est simplement une variable aléatoire que je calcule, et donc les issues possibles, c'est quoi ? C'est tous les résultats de mes 2 dés. Donc mes 2 dés, je vais les simuler, enfin je vais les modéliser plus exactement comme étant, donc je vais déjà mettre le résultat du dé rouge et puis le dé noir, puisqu'ils sont discernables, hein, rouge-noir, d'accord ? Donc le dé rouge, la première possibilité, ça peut être soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, d'accord ? Il n'y a pas 1, 1, 2, 2, 1, d'accord ? Il y a seulement soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, donc vous voyez, et puis le dé noir, les issues possibles, c'est 2, 3, 4 et 5. Donc, oméga, l'ensemble de mon univers, quoi, l'ensemble de mes issues possibles, c'est quoi ? C'est donc, il y a le couple 1, 2, il y a le couple 2, 1, 3, je les ai mis dans cet ordre-là, 1, 4, 1, 5, puis il y a 2, 2, 2, 3, etc., etc., d'accord ? Mais on voit que les probabilités de ces événements-là, donc ça c'est mon univers normalement, et les probabilités de ces événements-là, eh ben, c'est pas du tout équilibré probable, hein, puisque, par exemple, pour le résultat 1, 2, il y a 4 possibilités, puisqu'il y a 2 possibilités de faire 1 avec le dé rouge, et 2 possibilités différentes de faire 2 avec le dé noir. Donc ça fait 4 sur 36. D'accord ? 1, 3, par contre, c'est 2 possibilités, puisqu'il y a 2 possibilités de faire 1, mais seulement 1 de faire 3 avec le dé noir. Et ainsi de suite. Donc voilà, normalement, ma modélisation au départ. D'accord ? Et puis après, pour elles ne sont pas équilibrées probables, bon, j'ai pas tout écrit, là vous voyez le oméga, hein, je l'ai mis sur la droite, donc j'ai pas tout écrit, et après donc on me demande en question 2, est-ce qu'on obtient plus souvent une somme supérieure ou égale à 7, ou bien une somme inférieure ou égale à 7, ok. Alors, donc là il va falloir que je crée une variable aléatoire, donc la somme, S, la somme, donc quelles sont ces valeurs possibles, et eh ben c'est donc au minimum c'est 1, 2, bon, et puis je vérifie que je peux faire donc 3, donc 1 plus 2, 3, je peux vérifier que je peux faire 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc pour mes issues possibles de S. Après il me faut calculer les probabilités de S est égal à 3 par exemple. Alors c'est là où j'ai fait le tableau que vous voyez. Ok, je me demande, S égale à 3, quelles sont donc les issues possibles qui me permettent d'obtenir une somme 3. Donc il n'y a qu'une seule possibilité, je vois, c'est d'avoir le couple 1, 2 comme issue, d'accord ? Et ça, sa probabilité, c'est 4, enfin, c'est 4 sur 36. Pourquoi ? Parce que, donc il y a 4 issues possibles qui me donnent 1, 2. Il y a deux façons d'obtenir 1 avec le dé rouge et deux façons d'obtenir 2 avec le dé noir. Donc, alors si je prends par exemple la somme qui est égale à 6, d'accord ? Il y a plusieurs façons d'obtenir 6, soit je fais 1, 5, soit je fais 2, 4, soit je fais 3, 3, soit je fais 4, 2. Donc encore une fois, hein, le premier chiffre c'est celui du chiffre du dé rouge et le deuxième chiffre c'est celui du dé noir. Après il faut que je regarde, par exemple quand je disais 1, 5, bah, il y a deux façons d'obtenir 1, deux façons d'obtenir 5, donc ça me fait 4 possibilités d'obtenir 1, 5. Pareil pour 2, enfin 2, 4, etc., je le fais, voilà. Et donc au total, la colonne totale, hein, c'est donc le nombre de possibles de sorties possibles pour réaliser ces événements-là. Et évidemment, il faut les diviser par 36 si vous voulez obtenir la probabilité. Alors d'ailleurs, je vais vérifier que la somme des totaux fasse bien 36, puisque une fois que, à chaque fois que je divise par 36, ça doit faire 1, puisque pour être une probar. Donc 4, 4, 8, et 5, 13, 23, 28... 28, 32, 36, c'est bon. Donc j'ai bien vérifié que c'est plausible en tout cas d'avoir ça. Voilà. Et puis après, donc il me demande la question 2. P est supérieur ou égal à 7. Bah, il faut que je dise que c'est P de S est égal à 7. Alors, pour être plus grand que 7, il faut être soit, donc initialement, je vais tout écrire. Hein, c'est P, S appartient à l'ensemble 7, 8, 9. Mais comme les événements 7, 8 et 9 sont disjoints, eh bien, la probabilité d'appartenir à ça, donc à l'union, ça devient la probabilité, enfin la somme des probas, pardon. Donc ça fait P de S égale à 7, P de S égale 8, P de S égale à 9, avec des plus hein, entre chaque fois, voilà, et normalement si je ne me trompe pas, ça fait 13 sur 36. Et de l'autre côté, S sub inférieur ou égal à 7, c'est donc je reprends, S plus petit que 7, ça veut dire que S appartient à 3, 4, 5, 6, 7, alors c'est un ensemble, d'accord ? Ça veut dire que S appartient à 3, le singleton union 4, le singleton union 5, le singleton union 6, etc. Donc après, vous faites la fameuse... vous utilisez le fait que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, sauf que l'intersection, là, il est vide, parce que soit la somme est 7, soit la somme est 3, par exemple, soit la somme est 4, l'intersection est vide. D'accord. Combien y a-t-il d'issues ? On ne précise pas pour les élèves quel est l'événement univers. Sont-elles des probables ? En bref, il n'y a pas vraiment d'issues. Et puis en plus, la dernière question, je ne comprends même pas, une partition pour le monde, c'est le somme supérieur ou égal à 7, ou une somme inférieure ou égal à 7, quel est l'intérêt ? Donc, je ne comprends pas, mais voilà, enfin, voilà, c'est un exercice. Ok, donc là, c'est la première partie de l'univers. La deuxième partie, qui est beaucoup moins bien, qui ne se base que sur la deuxième partie. On veut la somme supérieure à 7. Alors on pourrait se dire, finalement, mon expérience aléatoire, je jette le bout et je regarde les phases de 2D, et après, je vais aller faire la phase de 2D, mais l'expérience aléatoire, c'est directement de dire, je jette 2D, je fais la somme. C'est ça mon issue. Donc, en ce qui est le cas, l'univers, maintenant, c'est seulement 3, 4, 5, 6, 7. Donc, d'accord. Et après, comme je fais pour établir les probabilités de ces événements-là, de ces issues possibles de la part des événements. Ok, bah, c'est facile. J'ai 2D, donc j'ai mis un résultat de D rouge sur les colonnes, là, sur la première ligne. Voilà. Les résultats de D noir sur la deuxième ligne. Et puis je fais la somme. Donc, vous voyez, j'ai fait le tableau avec les sommes. Et puis maintenant, si je veux savoir, il y a 36 cases, on est d'accord, c'est précis, 36 cases à l'intérieur. Si je veux par exemple savoir quelle est la probabilité d'obtenir 3, ben, vous voyez, je compte le nombre de cases à l'intérieur. Il y a 3, donc là, j'en vois 4. Quelle est la probabilité d'obtenir 4, j'en vois 4 aussi. Et la probabilité d'obtenir, alors je vais là, c'est 10, alors je vais dire, est-ce que j'obtiens, est-ce qu'il y a 10 cases à l'intérieur? On obtient la même chose, mais ça n'est pas du tout la même question en fait. Et encore une fois, l'exercice est mal plus. Donc normalement, ça ne devrait pas être parce que c'est mal calculé au niveau de probabilité. Et puis, quand vous regardez la question 1, c'est une première édition, c'est clairement la édition des deux questions. Pas la seule. On n'en parle qu'en question 2. Bon, et ben voilà. Donc, même si la modélisation de 2 est plus facile, alors, donc c'est déjà pas mal, parce que on se rattache à une situation qu'on connaît. Vous avez pu la somme de 2D à la place classique, alors la conclusion, il y a des points qui sont curieux, et donc ça va. Et donc, voilà. Et donc, il vous a fait remis le rattache à ce qu'il connaît. Voilà. Est-ce qu'il y a réellement 36 ici ? C'est quand même une question à avoir. Évidemment, vous n'avez pas eu de 36, quand vous regardez bien. Parce que j'ai un. Quand vous me repassez avec les fins, j'ai 13 issues seulement. Que il y a 16. D'accord, quand vous obtenez par exemple 1, 2, d'accord, que le 1 il vienne d'une patte ou de l'autre, c'est quand même le résultat, c'est quand même 1, 2. Voilà, il n'y a pas de condition. Néanmoins, est-ce qu'on peut nous reprocher de se dire que oh, si je reste dans le premier, si je reste dans le deuxième, et que je fais 10 ou 6, bah non, l'exercice est difficile. Ok, il est bien beau, mais voilà. Donc, EQ probable, c'est pas bien. Alors que pour notre cas classique, il faut évidemment que D ait une surface différente. Voilà. Donc, voilà pour la première question. Donc, quand même, il sait se rattacher, il a identifié un cas classique et il s'y est rattaché. D'accord ? Donc, il a appris son cours et c'est déjà pas si mal. Encore une fois, l'exercice ne trouve pas génial. La deuxième question, la somme est supérieure à 7 et le contraire de la somme est inférieure à 7. Alors on ne va pas s'embêter avec le inférieur ou égal ou strictement inférieur, d'accord. Donc il y avait cette confusion là, mais bon voilà. Il utilise l'événement contraire, ça c'est bien. Par contre, il semble faire la confusion entre les deux probabilités, probabilité que S soit inférieur à 7 et S soit supérieur à 7. Donc en fait, si jamais vous confondez les deux, si jamais vous dites que les deux probas sont les mêmes, bah, vous devez régler l'équation x est égal à 1 moins 10, vous trouvez bien que x est égal à 1,5 et c'est ce qu'il a fait. Donc là, il n'a pas distingué bien le fait que la probabilité S plus petit ou plus grand que, bah, c'est pas du tout le même probas, c'est la même chose. Voilà. Donc il a faux par ici, voilà, et c'était assez normal qu'il se trompe comme ça. Bon, élève numéro 2. Alors, lui, c'est différent. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la somme, mais en colonne. Alors, il confond, en fait, avec ce qui se passe, vous savez, quand on est en petite classe, où on donne des issues possibles, et on vous demande, donc on a des dés, et puis on fait des tirages, et puis on vous dit, le résultat du premier dé, ça a été ça, le résultat du deuxième dé, voilà. Donc, peut-être pour lui, une fois qu'on a lancé deux dés à 6 faces, c'est que le premier dé a donné 1, 2, 3, 4, 4 sur l'expérience, et puis le deuxième dé a donné 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, et puis il vous fait ça. Donc, en fait, il se ramène à une situation, mais qui n'est pas du tout celle-là, hein, qui est bien plus ancienne, où on faisait des tirages, où on donnait les tirages, les issues possibles, et puis on essayait de trouver des probabilités, des choses comme ça, ou des stats possibles. Voilà. Donc, première question, un gros problème, hein, puisque c'est pas du tout au même niveau, hein, ça, qui coopère. Néanmoins, il dit, il n'y a pas équivalence, car 3 arrive 2 fois et 5 est 5 une fois. Bon, on peut se dire que c'est pas si mal, même si, en fait, quand on fait des tirages comme ça, quand on donne les tirages, ça peut, on peut très bien avoir une situation d'équiprobabilité. Simplement, vous obtenez, si vous avez une pièce équilibrée pile-face, vous avez le droit d'obtenir face-face pile. D'accord ? Sur trois événements, forcément, il n'y a pas deux d'un, deux de l'autre, puisqu'il n'y a que trois expériences. Voilà, donc une faute. Pour la première chose, il n'a vraiment pas compris. La deuxième, on obtient plus souvent une somme inférieure ou égale à 7, dans 4 cas, qu'une somme supérieure ou égale à 7, bon, on va essayer de trouver des points à lui mettre, des choses comme ça. Donc il a compris que dans une situation d'équiprobabilité, parce qu'il croit que... Bon, enfin, il faut tout reprendre pour lui. Il faut reprendre le modèle classique de la somme de deux faces de déquilibré. Déjà, il faut revenir vraiment à la base. Il faut qu'il comprenne les différences entre les issues qui sont données et puis... de faire une expérience aléatoire lui-même. Voilà, donc il faut reprendre pas mal de choses. Bon. Analyse de la production de l'élève numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a 7 issues probables, donc il confond probable et possible, hein, d'accord ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Alors, dans la question 1, en fait, bah, c'est typiquement l'élève qui a regardé la question 2, et la question 2 l'influence sur la question 1. On peut pas lui reprocher, c'est pas bon, mais voilà, ça peut arriver. La loi de probabilité est équilibrée par ci, car les dés sont équilibrés. Donc là, c'est pareil que l'élève numéro 1, il se ramène à un cas qu'il connaît. Vous les avez fait en cours, je jette les dés équilibrés, distinguables, et puis je fais le tableau, etc. Et on voit 36 possibilités, et c'est probable pour les issues. Les issues des 2 dés sont probables, d'accord ? Quand vous dites... quand vous lancez 2 dés à 6 faces, bien équilibré, la probabilité de faire 1, 3 ou de faire 2, 5, c'est la même. C'est équilibré. D'accord ? Par contre, la variable aléatoire x est égale à la somme, hein, elle, c'est pas, il n'y a pas du tout une probabilité des résultats. Donc là, il confond donc le résultat lancé des 2 dés, qui elle est plus probable, avec la somme qui ne l'est pas. Voilà, et puis donc, question 2, à l'aide d'un arbre, je vois qu'on obtient le plus souvent une somme inférieure ou égale à 7, dans 28 cas, une somme supérieure ou égale à 7, dans 13 cas. Et bien, donc, pour la 2, c'est bon, il a bien réussi son arbre. Bon, on n'a pas la trace, c'est dommage, mais il a bien réussi, puisque c'est ce qu'on trouve avec le calcul. Hein, donc, c'était une possibilité, c'était bien. Donc voilà, donc les trois élèves ne sont pas au même niveau. D'accord, l'élève numéro 2, il faut reprendre vraiment les bases avec la différence entre on donne des issues et puis on va faire des statistiques pour savoir si on est équilibré ou pas, parce qu'on nous a annoncé que les débuts étaient équilibrés ou des trucs comme ça. De l'élève numéro 1 et 3, pour lesquels ils ont compris ce que c'était que la situation avec une probabilité, ils ont compris ce que c'était quand on lançait 2 dés, qu'il y avait 36 événements, qu'après on faisait la somme. L'élève 3 est quand même plus avancé, puisque lui, il arrive à recater un raisonnement par arbre qui est juste. Donc voilà. Ok, après, je ne vais pas vous proposer des exercices comme ça dans les manuels, etc. C'est pas formidable ce que je trouve, mais par contre, je voudrais vous dire comment quoi faire sur le calcul. Déjà, vous regardez dans le collège, et vous voyez qu'en troisième, il y a la notion de probabilité. Avec comprendre et utiliser les notions élémentaires de probabilité, calculer les probabilités, vous devez peut-être être familier, notamment le biais de classe, etc. Voilà, observer des fréquences, c'est ce que l'autre a fait, d'accord, les lèvres de l'anglais, puis aussi la probabilité pour les différences, etc. Un petit exercice là-dessus, au troisième, pour dire qu'on introduit les probabilités à ce niveau-là, c'est très bien. Ensuite, première S, moi ça m'a intéressé, donc j'ai recopié une partie du programme, hein, pas tout. Mais ce que j'aime bien, moi, en première S, c'est le côté épreuve de Bernoulli, et puis le passage vers loi binomiale, vous savez, répétition d'une épreuve de Bernoulli. Donc ça, moi j'aime bien, donc c'est ce que je vous conseillerais de faire à ce niveau-là, donc un exercice. Donc, par exemple, le premier, ça peut essayer d'avoir un problème de courante, comme ils disent, ou quelque chose comme ça. Là, par contre, un exercice assez guidé, assez mathématique, mais peut-être pour retrouver des formules, les formules des coefficients binomiaux, ou le triangle de Pascal, ou des choses comme ça. Petit point, la question factorielle n'est pas assez évidente, mais une fois de très par cas, il faut pas être déterminé par caractéristique factorielle. Donc, bon, retrouver. Calculer le CLK par exemple pour n est égal à 5 et tous les cas, bon, pourquoi pas, ça peut, avec un triangle de Pascal, ça peut faire quelque chose, il peut aussi possibilité de faire un logique, etc. Et puis donc on termine à l'aise, donc je vous ai mis deux parties du programme, il y a deux choses qui sont intéressantes à mon avis. La première, donc, c'est ce que vous voyez le tableau à gauche, là, c'est conditionnement et indépendance, bref, la notion de événement sachant que. Et puis l'indépendance de tous les événements. Donc ça, c'est un exercice là-dessus. Et puis l'autre chose qui est beaucoup, enfin, très différente et beaucoup plus difficile, etc., c'est la notion de variable à densité de probabilité. Pardon. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un exercice, par exemple, sur une variable aléatoire, soit une norme exponentielle, soit quelque chose comme ça, et de savoir le faire, ou alors une méthode de Monte Carlo pour voir pour approcher la loi normale, bref, avec une simulation. Voilà, donc là vous voyez le panel d'exercices que vous pouvez avoir entre troisième, donc avec un exercice vraiment de base, vraiment basique, vraiment modélisation, etc., fréquence, calcul de fréquence, des choses comme ça, rien de méchant. Premier S, plus intéressant à mon avis, utiliser Bernoulli et répétition Bernoulli avec coefficient de binomio. Et puis pour les calculer, triangle de Pascal, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis terminal S, deux points importants, l'expérience conditionnelle, enfin, le conditionnement, quoi, donc un événement sachant que, et puis les lois uniformes. Voilà, donc il y a la possibilité de faire pas mal de choses avec ça. Donc voilà pour cet exercice.